Bien, merci à l'espace Mendès France et merci à Anne Bonnefoy. Donc effectivement, ce livre qui était issu d'un colloque de la Fondation européenne pour la science, et il a été dirigé par quatre personnes. Donc je voudrais citer ici Nicole Edelman, dont Anne Bonnefoy vous a parlé, et Nathalie Richard, qui est l'actuelle présidente de la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme, donc qui m'a succédé. Elles n'ont pu venir, mais voilà, nous espérons que nous les représenterons dignement, voilà, comme on dit. Donc, je voudrais ici revenir sur ce livre qui, au fond, était un peu nouveau, je pense l'est encore un peu, dans la mesure où, d'une part, nous abordions les femmes dans les sciences de l'homme, et bien entendu, il y avait un certain paradoxe à parler des femmes dans les sciences de l'homme, donc de sciences qui parlent de l'homme. Je vous rappelle qu'en français, l'homme a un double sens, ça renvoie à la fois à l'homme comme mâle opposé à la femme, et évidemment à l'homme comme être humain. Donc c'était pour nous un titre un peu provocant, donc ça c'était la première nouveauté. Peut-être ce qui avait été notre parti pris aussi, ce serait la deuxième originalité, peut-être plutôt que nouveauté, c'est que nous ne nous sommes pas intéressés à ce qu'on pourrait appeler la construction de savoir sur le masculin et le féminin. Nous l'avons laissé un peu de côté. Nous nous sommes intéressés, au fond, au rôle effectif des femmes dans les sciences et dans les sciences de l'homme. C'était ce qui, peut-être, était notre propos. Et c'est à partir de cela que nous avons proposé à un certain nombre de collègues, donc françaises, mais aussi italiennes, britanniques, donc allemandes également, de travailler donc sur ce thème. Et ça serait donc là le point, disons, le point important. Cela nous a amené à distinguer, au fond, trois types d'histoire ou de trajectoire, le sous-titre de notre livre étant « Inspiratrice, collaboratrice ou créatrice » avec un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il nous a semblé que dans l'histoire des sciences de l'homme, il y avait non seulement des créatrices, c'est-à-dire des pionnières. On parlera par exemple tout à l'heure de Maria Montessori, où on pourrait parler des premières femmes médecins, hein. Mais il y a aussi, je dirais, des femmes cachées, si j'ose dire, des femmes qu'on doit ramener à la surface au terme d'une recherche historique, des inspiratrices. Et par exemple, on pourrait parler de la fameuse Clotilde de Vaux, qui a été l'inspiratrice d'Auguste Comte, notamment, mais il y en a d'autres. Et puis, collaboratrices, il y a des femmes qui ont aidé leur mari, leur père, ou qui ont prolongé la mémoire de leur mari et de leur père. Donc, il nous intéressait de mettre au jour tout ce type de trajectoire. Alors, celles qu'on connaît le mieux, c'est évidemment les pionnières, celles qui ont laissé un nom dans la science, et celles qui ont laissé un nom dans la science, j'entends dans les sciences de l'homme, puisque notre propos était de parler des sciences de l'homme. Donc, elles l'ont fait dans des domaines très, très particuliers. On s'est aperçu que c'était par exemple dans le domaine de l'enfant ou dans le domaine de la psychanalyse, mais tu en parleras peut-être. Quant aux autres, donc, nous nous sommes aperçus aussi que finalement, ces inspiratrices, quelquefois, elles avaient un rôle, elles pouvaient avoir un rôle ambigu. Elles sont aussi, à certains égards, des auteurs. Et on reprendra le cas de Clotilde de Vaux, qui est tout de même un cas assez intéressant. Enfin, Il y a dans ces histoires ce que nous avons appelé des femmes des marges. Donc, des femmes des marges pour des savoirs des marges. Et ici, je vous parlerai un tout petit peu, j'évoquerai un tout petit peu une femme criminelle, une femme qui est à la fois une savante et une criminelle et dont on a la trace, effectivement, parce qu'elle a donné lieu à un procès retentissant. Alors, peut-être vais-je maintenant, ici, m'attacher aussi à... Peut-être, oui, je voudrais juste commenter peut-être la couverture du livre. C'est une série assez amusante, donc ça s'appelait... La couverture représente l'étudiant, hein, et c'est une femme qui est donc habillée en étudiant. Alors, je pense que c'est une carte postale du début du XXe siècle. Et c'était donc une série de cartes postales qui s'intitulait « Les femmes de l'avenir », début XXe siècle. Et ça représentait des femmes donc dans des rôles, des grades ou des métiers qui étaient réservés aux hommes. Et par exemple, on avait la femme étudiant, on avait la femme conscrit, évidemment, il n'y avait pas de conscrit femme, la femme garde-champêtre, gendarme, petit tambour, zouave, sous-off, sous-lieutenant, général, maître d'armes, jockey, rapin, journaliste, maire, alors maire, M-A-I-R-E, je précise évidemment, et députée. Hein, donc, et là, on a maintenant évidemment des femmes maires et députées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'était toujours orthographié au masculin. Par exemple, là, l'étudiant, est au masculin. Pourquoi ? Parce que dans la langue du 19e siècle, quand on dit une étudiante, c'est la femme de l'étudiant ou c'est la maîtresse de l'étudiant. Hein, donc on dit une étudiante. De même que la générale, en principe, c'est la femme du général. Donc, quand on veut dire une femme étudiant, à ce moment-là, on emploie le masculin. Donc, on voit bien là que maintenant, quand même, les usages linguistiques ont changé. Alors, je voudrais, comme il y a de nombreuses communication dans ce livre, je voudrais revenir sur trois exemples qui me semblent intéressants, mais il faudrait lire évidemment tout le livre. Le premier exemple, c'est au fond l'exemple de pionnières, l'exemple des premières femmes médecins qui a été étudié par notre collègue Nicole Edelman. Donc, elle a fait une étude sur ces femmes de la fin du 19e siècle. Donc, pour fixer les idées, la première femme médecin française, c'est une certaine Madeleine Bress, qui passe sa thèse en 1875 sur l'allaitement, la mamelle et les mamelles, je crois que c'est la mamelle ou les mamelles et l'allaitement. Donc, vous voyez, elle est dans un rôle, évidemment, dans un thème qui est réservé aux femmes. Donc, les premières femmes médecins en France, elles sont acceptées difficilement. Et quand on les accepte, on les cantonne dans le thème des maladies des femmes et de l'enfance. Hein, et donc, l'allaitement, notamment, par exemple. Elles accèdent à l'internat à partir de 1885, non sans mal. Par exemple, avant 1885, il y a eu une pétition des étudiants en médecine masculins qui refusaient que des jeunes filles puissent être internées. Des jeunes filles, ça veut dire une, hein, une ou deux, pas plus. Donc, ce que montre Nicole Edelman, c'est que ces femmes médecins ne sont pas du tout des féministes, ou elles ne veulent pas du tout changer l'ordre des choses. Néanmoins, par leur existence même et par le fait qu'elles puissent devenir médecins, elles apparaissent évidemment comme mettant possiblement en péril, au fond, l'idée qu'il y a une nature féminine qui veut qu'une femme ne peut pas assumer ce rôle de médecin, donc ce rôle très, très, très astreignant, qu'une femme ne peut pas, évidemment, voir aussi à des leçons d'anatomie des corps masculins, ce serait pas très bien séant. Ce à quoi certains rétorquent, mais alors c'est pas bien séant qu'un homme voit des corps féminins donc dans une leçon d'anatomie. Donc ces femmes ne sont pas du tout, elles sont très très pour la plupart donc elles sont extrêmement dans une position de disciples des grands patrons masculins, enfin ce qui est aussi la situation de beaucoup d'étudiants de médecine, hein, d'internes en médecine. Si vous lisez une thèse de médecine, vous voyez que c'est très codifié, il y a des dédicaces qui sont très codifiées, il y a toujours des dédicaces extrêmement élogieuses donc aux patrons de médecine. Et elles sont exactement dans cette position-là, et elles se moulent d'autant plus dans ce rôle qu'elles sont évidemment extrêmement minoritaires, hein. Il y en a très très peu de femmes qui seraient donc doctoresses, comme on disait à l'époque. Donc, alors quand on étudie leurs travaux, on s'aperçoit qu'elles ont quand même des petites différences par rapport, disons, à ce que peuvent dire leurs collègues masculins. Notamment, par exemple, tout en disant en général que le rôle des femmes est d'être mères et de bien élever leurs enfants, elles soutiennent que les mères doivent être instruites pour élever leurs enfants. Hein. Donc c'est là une différence. Elles soutiennent aussi, par exemple, qu'il ne faut pas trop comprimer les jeunes filles dans des corsets, puisqu'à l'époque, les jeunes filles sont extrêmement... comprimées, quelquefois même de façon préjudiciable pour leur santé. Donc, tout en maintenant l'idée qu'au fond, il y a des rôles naturels féminins et masculins, elles introduisent des petites différences et des petites variations. Certaines font des carrières universitaires et Nicole Edelman étudie un couple tout à fait intéressant, le couple de monsieur et madame Dégerine, donc en neurologie. Et là, on voit qu'il y a une femme qui est à la fois médecin et collaboratrice de son mari. Donc, elle se spécialise dans les coupes histologiques, dans les schémas. Et c'est son mari qui fait le texte, les introductions. Et il signe souvent à quatre mains leur contribution. Enfin, il y a quelques femmes médecins qui sont des militantes féministes. Évidemment, là, il faudrait parler longuement d'une femme qui s'appelait Madeleine Pelletier et qui a été donc une des premières militantes du birth control et qui a aussi milité pour la possibilité pour les femmes d'avorter. Donc elle est vraiment dans une position très féministe, mais elle est très très peu... elle est très très singulière. Il faut ajouter aussi que à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, un nouveau thème apparaît. Donc une s'ouvre à quelques femmes le soin des aliénés. Vous voyez que les femmes cette fois-ci deviennent celles qui peuvent consoler les aliénés. Donc ça c'est vous voyez enfin, il faudrait vraiment lire l'article de Nicole Edelman. J'en arrive maintenant à une femme qu'on connaît bien et mal à la fois, qui est Clotilde Devaux. Donc, je vous rappelle que Auguste Comte, donc le fondateur du positivisme, donc, est marié avec une femme qui s'appelle Caroline. Et cette femme qui avait, semble-t-il, mené une vie un peu dissolue avant son mariage, enfin c'est du moins ce qu'Auguste Comte dit, épaule beaucoup la carrière de son mari. elle est très intelligente, mais au bout du compte, Auguste Comte étant toujours dans une position d'échec, sa femme essaye de rattraper les morceaux, mais elle y arrive difficilement, et au bout du compte, ils se séparent. Et Auguste Comte, alors qu'il est déjà un monsieur d'âge mûr, tombe amoureux de Clotilde Vaux, donc une femme beaucoup plus jeune que lui, qui a été abandonnée par son mari, qui a une trentaine d'années, et cette femme veut vivre de sa plume. Donc c'est Clotilde Vaux, et en réalité, elle n'est pas amoureuse d'Auguste Comte, elle est amoureuse apparemment d'un autre homme, tout simplement. Et en même temps, elle est flattée qu'Auguste Comte tombe amoureux d'elle. Et notre collègue Annie Petit donc, a consacré un article tout à fait intéressant à ces relations entre Auguste Comte et Clotilde Vaux. C'est-à-dire qu'Auguste Comte, elle veut vivre de sa plume, elle publie des romans qui ont un certain succès. Et Auguste Comte essaye de la seconder, lui donne des conseils pour bien écrire ses romans, etc. Et elle, à la fois, elle accepte, parce qu'elle est flattée, évidemment, de faire l'objet de l'attention de cet homme célèbre. Et en même temps, elle veut garder son indépendance. Et on voit qu'elle maintient toujours cette position lorsqu'on suit la correspondance d'Auguste Comte et de Clotilde Vaux. La suite, cette relation dure un an seulement, car Clotilde Vaux meurt, je crois, de tuberculose, si je ne me trompe pas. Et donc, après cela, Auguste Comte va l'idéaliser, il va en faire son ange inspirateur et il va fonder toute la religion positiviste autour du culte de Clotilde Vaux. Et tout se passe comme si, effectivement, Clotilde Vaux, dans ce rôle d'ange inspirateur, c'est le terme qu'utilise Auguste Comte, donc, devenait une sorte d'idole. Et on oublie que, en quelque sorte, Clotilde Vaux a été une femme auteure. Alors, peu importe la qualité de ses romans, mais en tous les cas, elle a voulu vivre de sa plume et elle ne s'est apparemment jamais laissée tout à fait prendre dans ce rôle de simple ange inspirateur. Et ensuite, évidemment, elle deviendra l'enjeu, la figure de Clotilde Vaux, alors après sa mort, post-mortem, deviendra un enjeu entre les héritiers d'Auguste Comte. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont orthodoxes, qui suivent Auguste Comte dans sa religion de l'humanité. Et à ce moment-là, il valorise Clotilde Vaux. Et il y a ceux, au contraire, qui... comme Émile Littré, l'auteur du fameux dictionnaire, n'est-ce pas, qui est lui-même positiviste, qui dit on ne va pas suivre Auguste Comte jusqu'à fonder une nouvelle religion. Et eux, à ce moment-là, prennent plutôt le parti de Caroline, la femme qui s'était séparée d'Auguste Comte. Donc on voit là aussi qu'il y a des enjeux autour, je dirais, des deux femmes d'Auguste Comte, mais cette fois-ci post-mortem. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Clotilde Vaux n'est pas une simple idole, comme on l'a statuée. Si vous allez, par exemple, sur la place de la Sorbonne à Paris, vous voyez une statue et on voit Clotilde Vaux qui est une sorte d'idole, si on veut, alors qu'en fait, elle est aussi une femme qui écrit. Je crois que on voit là, vous voyez, le balancement entre une femme qui serait auteur et une femme qui serait inspiratrice d'un grand homme. Alors, j'en arrive maintenant à une dernière histoire que je voudrais, évidemment, forcément, un peu résumer et vous conter assez rapidement. C'est une enquête que nous avions menée avec Nathalie Richard sur une femme criminelle. Donc, c'est une femme qui s'appelle Mathilde Frigard. Et donc, c'est une fille de médecin, et c'est tout à fait important. Et elle est accusée, elle a un itinéraire très, très particulier. Elle est commerçante à Caen. Son commerce est ruiné. Et à la suite de cela, donc, elle monte à Paris faire fortune. Donc, elle laisse son mari et ses enfants à Caen, ce qui est très inhabituel, évidemment, pour une femme du Second Empire. Elle vit sous le Second Empire. Donc, voilà, elle va à Paris, elle cherche à faire fortune. Et là, elle rencontre une autre femme qui est une veuve... Qui est un peu aussi une prostituée, qui s'appelle Madame Mertens. Donc à Paris, il y a un peu du demi-monde. Et elle cherche à lui extorquer de l'argent pour fonder un commerce à Paris, donc pour faire venir sa famille à Paris et fonder un commerce. Et finalement, on retrouve le cadavre de Madame Mertens, donc cette femme dont elle a essayé de tirer de l'argent, on le retrouve décomposé dans la forêt de Fontainebleau. Et on accuse Mathilde Frigard d'avoir tué Madame Mertens. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on ne sait pas comment elle aurait pu la tuer dans la forêt de Fontainebleau, parce que le cadavre est décomposé, donc les médecins évoquent toutes sortes d'hypothèses. Donc Madame Frigard est arrêtée. Et il y a un procès absolument retentissant à Melun, donc Melun qui est le chef-lieu du département, donc où se situe le procès d'assises, donc en août 1867. Et là, toute l'investigation des juges consistera à mettre l'accent sur les connaissances médicales de Madame Frigard, donc fille de médecin qui avait des livres de médecine chez elle, pour dire que ça n'est pas normal pour une femme de lire des livres de médecine et de s'intéresser aussi au poison, puisqu'on pense qu'elle a pu empoisonner Madame Mertens dans la forêt de Fontainebleau. Donc les investigations portent, on construit au cours du procès, un portrait de femme, de femme savante, criminelle et hors norme en quelque sorte. Et dans plusieurs journaux, on dit que c'est une femme virile. Et à la suite de ce procès, on ressort une histoire qui s'était passée avant qu'elle monte à Paris pour essayer de faire fortune. Donc avant cela, elle était allée dans un château à Crèvecœur-en-Auge, donc toujours pas très loin de Caen. Et là, elle avait proposé de faire des fouilles dans ce château pour retrouver un trésor. Donc elle s'était donc située comme une antiquaire. Ce qu'on appelait antiquaire à l'époque, c'était l'équivalent d'archéologue. Et donc il y a des récits sur ces fouilles. Donc elle se proposait de mener des fouilles, mais elle se proposait de les mener d'une façon très particulière, à l'aide de ce qu'on appelait le magnétisme animal, ce qui deviendra ultérieurement l'hypnotisme. C'est-à-dire qu'elle hypnotise une domestique normande nommée Léonie, et donc c'est sous hypnose ou sous magnétisme animal plus précisément, Léonie est censée voir à travers les corps opaques et donc être une sorte d'investigatrice pour des fouilles en quelque sorte, indiquer où est-ce qu'il y a des squelettes enterrés, où est-ce qu'il y a des fondations, où est-ce qu'on peut trouver surtout ce fameux trésor qui aurait été déposé au Moyen-Âge, donc dans ce château de Crèvecœur-en-Auge. Donc on a là, vous le voyez, deux femmes, une femme hypnotisée donc, et une femme qui hypnotise, qui est extrêmement rare à l'époque. Il est très rare que des femmes magnétisent en général. Donc, c'est un homme qui magnétise une femme. Et donc, on voit là que Mathilde Frigard est également une femme qui transgresse, en quelque sorte. Alors, elle est à la fois dans un savoir qui est un savoir considéré comme marginal à l'époque, donc un savoir du magnétisme animal qu'on appellera ensuite hypnotisme, donc savoir contesté, savoir marginal. Et puis, elle est aussi donc, dans un savoir qui est le savoir archéologique, qui à l'époque est souvent un savoir qui souvent un savoir d'amateur. Hein. Donc elle est dans une posture d'amateur. Alors que ces recherches archéologiques donc soient des recherches pour trouver un trésor, c'est pas quelque chose qui est forcément marginal à l'époque. On a d'autres exemples de fouilles qui sont menées pour trouver des trésors. Ce qui pose problème, au fond, c'est que cette femme, elle met en jeu des pratiques qui devraient être réservées aux hommes, et peut-être aussi que c'est une femme qui se situe aux marges et dans des savoirs des marges. Et alors on voit que dans le procès, effectivement, ces deux aspects de son activité savante, si vous voulez, lui sont en quelque sorte imputés à charge, puisqu'on a du mal, dans la mesure où on a du mal à trouver des preuves tangibles de sa culpabilité, eh bien, il faut construire d'elle une image de femme savante hors norme. Alors qu'en fait, je vais peut-être ne pas trop développer, mais on pourra revenir dans la discussion. Si l'on regarde très bien les archives, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que cette espèce d'image de femme virile, savante, qui a été construite notamment par l'accusation contre elle. Mais on voit bien là comment est construit une espèce de personnage de femme savante. Alors, il s'agit évidemment d'une femme dont on a trace parce qu'il y a eu procès contre elle. On peut imaginer qu'il y a eu d'autres trajectoires féminines dont on n'a pas trace puisque on n'a pas eu de projet. Pour l'historien, c'est évidemment souvent un grand bénéfice, les archives judiciaires. Donc là, avec Nathalie Richard, nous avions fait une sorte d'usage un peu détourné des archives judiciaires. Ça nous avait permis, en quelque sorte, de retrouver là une trajectoire singulière et de retrouver donc une femme qui est à la fois des marges et aux marges. Mais on pourrait évoquer des femmes qui sont des marges et aux marges, je n'en parlerai pas ici, mais à la même époque, à l'époque de Mathilde Frigard, on a par exemple des féministes, donc des femmes féministes, des pionnières, qui se posent la question de qu'est-ce que c'est qu'une histoire des femmes ? Est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre l'histoire en y accordant un rôle aux femmes ? Vous voyez que on a évidemment des femmes aux marges, mais pas des criminels. Inversement, on pourrait penser qu'elles peuvent nous apparaître comme des femmes pionnières ou précurseurs dans un mode de savoir qui est évidemment assez marginal. Et peut-être qu'après, je vais laisser parler Annick sur des femmes du XXe siècle et peut-être aussi sur le corpus.